Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice qui va consacrer une première émission à une série sur les métiers de la justice, et ce premier volet sera consacré aux magistrats. Devenir magistrat, pourquoi pas moi, en compagnie de Youssef Badre et de Simon Champigny. Pendant la fermeture des écoles, France Culture a décidé de réorienter ses programmes vers les collégiens restant chez eux. Et c'est pourquoi Esprit de Justice a choisi de présenter les différents métiers de la justice, et Dieu sait s'ils sont nombreux. On va donc commencer ce mercredi par les magistrats. Les magistrats, c'est un corps qui se divise en deux, d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, les procureurs qui poursuivent les infractions qui sont transmises par la police et les juges qui décident. Et c'est pourquoi, dans cette première émission, j'ai décidé de réunir deux jeunes magistrats, Youssef Badre. Youssef Badre qui est du parquet, qui a d'abord été substitut à Meaux, puis à Bobigny, puis substitut à l'unité de lutte contre la grande criminalité de Paris, la GIRS, puis porte-parole de la garde des Sceaux. Et aujourd'hui, il est formateur à l'ENM. Et pour débattre avec Youssef Badre, Simon Champigny. Simon Champigny sera avec nous depuis Verdun, où il est juge des enfants depuis quelques années. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, je commencerai par vous, Youssef Badre. Est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs quel a été votre itinéraire? Comment vous êtes devenu magistrat?
Alors, mon itinéraire, il est assez classique, dans le sens où, après le bac, je me suis orienté en faculté de droit, d'abord en IUT, carrière juridique. Ensuite, j'ai poursuivi en licence, en maîtrise et en DEA. Au départ, moi, j'étais parti pour faire une carrière d'avocat. Parce qu'il y avait deux raisons qui m'attiraient principalement. La première, c'était la défense des autres. J'ai toujours trouvé que c'était un très beau métier. Et puis celui qui avait la parole en dernier. Et j'ai fait la rencontre d'un professeur avec lequel on avait souvent des débats en amphithéâtre. Et un jour, on parlait de la question de l'injustice. Il m'avait dit, si tu veux changer les choses, avocat c'est très bien, mais magistrat c'est mieux. Et moi, j'avais pas du tout la confiance en moi. Je pensais pas du tout que c'était un métier qui était fait pour moi, ou en tout cas que j'avais le niveau pour l'avoir. Et on a commencé à. Il a mis cette petite graine en moi, et ensuite elle est née avec lui à mes côtés. Et
cette petite graine, ou ce qu'il fallait pour avoir confiance en vous, se dire ouais, je suis capable d'y arriver.
Je pense que c'est un tout, effectivement. Il y avait la première barrière, qui est que de nombreux collégiens lycéens, étudiants en droit, se mettent, même après 4 ans, 5 ans de droit, c'est-à-dire qu'ils se disent que des concours de la haute fonction publique comme l'ENM ou l'ENA, c'est pas fait pour nous. Moi, c'était évidemment ça, je l'avais même pas envisagé. Donc clairement, je l'avais pas du tout envisagé.
Vous n'y pensiez pas ?
Non, j'y pensais pas, parce que pour moi, c'était pas de mon niveau. C'était pas de mon niveau. Moi, je considérais que intégrer l'ENM, c'était vraiment un rêve. Et à côté de ça, je referme tout de suite la parenthèse, mais il y a aussi des professeurs, quelques chargés TD, heureusement pas tous, mais qui aussi nous faisaient comprendre que venant de l'université de Paris 13, c'était pas forcément pour nous, et qu'on allait se casser la figure. Si vous
alors permettez, pour nos auditeurs en province, il faut qu'ils comprennent que l'université de Paris 13, c'est Viltaneuse. Vous pouvez nous la présenter, Youssef Badre?
C'est l'université, c'est mon université de cœur. Elle est au milieu du 93, à Viltaneuse, entre deux quartiers sensibles. C'est très cosmopolite, c'est une très belle fac avec des très bons profs et de brillants élèves. Ce qui leur manque juste, c'est la possibilité à un grand nombre d'entre eux de rêver, et de rêver plus grand, pour reprendre un slogan.
Donc le premier obstacle, Youssef Badre, c'est de s'imaginer, dans le fond.
Exactement, c'est de se projeter et de se dire que ce concours, il est fait pour nous. Aujourd'hui encore, moi qui suis en lien avec pas mal d'étudiants, beaucoup se disent que c'est pas pour eux, énormément encore. Ce qui a changé, c'est... Il y a 15 ans entre les deux, entre ce que je me disais moi en 2006 et aujourd'hui, il y en a énormément qui se disent toujours la même chose.
Et pourquoi ils se disent ça?
Parce que je pense qu'ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas forcément ils s'estiment pas légitimes, dans le sens où ils n'ont pas le bagage culturel. La première, qui est une notion très importante, parce qu'il y a deux épreuves maîtresses, en tout cas à Rennes, au concours d'entrée à l'ENM, comme à l'ENA d'ailleurs, c'est l'écrit de culture générale, ou en tout cas de connaissance du monde contemporain, tel qu'il est intitulé aujourd'hui. Et le deuxième, c'est le grand oral, qui aussi fait peur à ces étudiants-là. La deuxième, c'est tout simplement qu'en fait, quand ils regardent autour d'eux, il n'y a personne qui est magistrat, il n'y a personne qui est...
qui vient de la banlieue.
Exactement, dans leur entourage familial, parents, frères, sœurs, voisins, personne d'ailleurs aussi n'a fait médecine, personne n'est haut fonctionnaire, personne n'a décroché l'ENA, donc eux, ils se disent mécaniquement, si personne ne l'a fait dans mon entourage, c'est que moi je peux pas le faire. Un des professeurs qui a une place évidemment très importante dans mon parcours et dans ma vie, me rappelait il y a quelques semaines quand je l'ai revu, une statistique de l'OCDE, il faut six générations pour une famille pauvre pour accéder à la classe moyenne. Donc il faut six générations pour quelque part un gamin de banlieue dont les parents sont ouvriers, femmes de ménage, parfois au chômage, pour aller gravir les marches de la haute fonction publique. Et j'ai découvert qu'on appelait ça un transfuge de classe, transclasse récemment, lors d'une discussion.
C'est possible.
Ah oui, c'est possible, oui.
C'est possible. Et Simon Champigny, alors vous, votre parcours très différent.
Alors c'est un parcours très différent puisque moi je suis passé plutôt par un IEP de province à Sciences Po Bordeaux et c'est vrai que Sciences Po c'est une formation où on est encouragé en fait à passer des concours, à prendre confiance en soi, donc si on n'a pas le background familial pour se lancer dans les concours, on a vraiment une formation qui encourage ces étudiants à tout tenter. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que les étudiants de Sciences Po peuvent se tourner vers la magistrature, c'est qu'a priori, c'est pas vraiment... Sciences Po, ça prépare pas du tout la magistrature, sauf à se spécialiser vraiment, mais c'est une formation dans laquelle on peut être poussé à aller au-delà et donc à suivre une formation qui a priori pas celle, enfin une, à préparer un concours qui a priori pas celui de la formation qu'on a suivie. Donc moi c'est un peu comme ça que d'ailleurs j'ai découvert le droit incidemment, comme la sociologie d'ailleurs, c'est des matières qui sont pas enseignées au lycée et donc je les ai découvertes dans cette formation là à Sciences Po à Bordeaux. Oui.
Simon Champigny, est-ce que vous diriez que à Sciences Po on apprend plus à savoir être des codes culturels que véritablement un contenu technique?
J'irai pas jusque là. Oui, il y a des savoir-faire qui sont appris. Il y a la culture G qui reste une constante dans la formation. Après, bon, ça reste. Il y a une formation à des concours administratifs, donc en droit public. Il y a des formations spécialisées. Mais c'est vrai qu'on débarque au concours avec d'autres armes, avec parfois une meilleure maîtrise de l'oral, avec les langues, avec la culture générale, qui rend quand même bien service au concours, puisque effectivement, c'est des épreuves qui rapportent des points.
Oui, mais je dis ça parce que je pense bien sûr au fameux article de Bourdieu et à ses travaux sur la noblesse d'État, où il expliquait que la culture générale, c'est ce qu'il y a de plus discriminant, parce que c'est ce qui fait appel à une sorte de background culturel qui pour le coup distingue les classes sociales. Youssef Badr.
C'est très intéressant ce que dit Simon, parce que c'est la preuve effectivement, même si on le sait aujourd'hui, que les concours de la haute fonction publique, c'est des concours de méthodologie en fait. Et en fait, vous prenez deux étudiants à la fin de leurs 4 ou 5 ans d'études. Celui qui a fait Sciences Po, il sait écrire, il sait faire une dissertation, il sait faire des phrases très simples, il a un style agréable à lire, il est prêt pour présenter un concours. Celui qui a fait la fac de droit, il connaît, il a appris à raisonner, il connaît le syllogisme judiciaire, il sait appliquer des textes, mais si on lui demande de faire une dissertation ou si on lui demande de faire une note de synthèse, rares sont ceux qui sont capables de le faire. Et en fait, le départ du concours, il y a déjà un temps de retard, parce que il y a ceux qui vont se familiariser avec le droit, ceux qui vont apprendre à ouvrir un code, mais ça s'apprend assez facilement, et ceux qui vont d'abord commencer par acquérir la méthodologie pour ensuite pouvoir présenter le concours.
Parce que ça veut dire qu'on est sélectionné en partie sur des choses qui sont pas techniques. C'est ce que, si j'entends bien ce que vous dites l'un et l'autre, c'est que on va être sélectionné au grand oral sur des choses qui sont extérieures au droit, et donc montrer sa capacité à s'intéresser à autre chose, tout ce qu'on reçoit pas dans les facs de droit. Youssef,
à raisonner, à présenter une argumentation claire en plusieurs parties, à exposer oralement une dissertation. Moi, j'ai découvert aux orothèques de l'ENM, la première fois, puisque je l'ai eu la deuxième fois. La première fois, je comprenais pas mes notes aux orotechniques. Je comprenais pas, alors que j'avais recraché le cours, si vous me permettez l'expression. Et en fait, on attendait de moi une présentation que je n'avais pas. On attendait de moi sur 5 minutes une présentation, c'est-à-dire une petite introduction, une problématique et un sujet avec 2 plans. Et j'ai le souvenir d'un sujet très simple à l'oral de procédure pénale. J'ai 6/20, je comprends pas. Et en fait, je comprends qu'en fait, ce qui me manque, en fait, c'est l'enveloppe, en fait. C'est pas le contenu, c'est l'enveloppe. Et ça, si on me le dit pas, je peux pas le savoir, en fait.
Simon Champigny, comment vous réagissez?
Bah, je suis tout à fait d'accord avec ça, d'autant plus que j'ai, à la fin de l'IEP de Bordeaux, moi, j'ai voulu préparer ce concours et j'ai du coup, en fait, je suis passé par la fac aussi, donc j'ai fait un master de droit pénal et on se rend bien compte de la différence des méthodologies. Clairement, par contre, j'ai l'impression d'apprendre énormément de contenu aussi à la fac et j'avais évidemment, on a besoin de ce contenu-là pour le concours. Il faut apprendre à emballer correctement le savoir, mais il faut quand même avoir le contenu dedans. Et on voit bien que l'optique des enseignements et des enseignants d'ailleurs, c'est pas du tout la même entre la fac où on cherche à former un spécialiste en droit. Et c'est vrai qu'à Sciences Po, on arrive assez bien à former ce que parfois on appelle des bêtes à concours, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi une manière de raisonner différente et une certaine efficacité dans les écrits, dans les présentations orales. Donc c'est vrai que c'est des approches extrêmement différentes.
Et Simon Chambier, vous avez fait une prépa privée, vous, en plus.
Oui. Alors, c'est vrai, c'est étonnant parce que on se demande pourquoi il faudrait une prépa privée pour passer un concours de la fonction publique. En réalité, c'est une question qui se pose pas beaucoup pour un très grand nombre de candidats. La prépa privée au concours, c'est quasiment indispensable pour réussir le concours. Alors je décris un fait parce que moi-même, je me suis dit au début que j'avais préparé ce concours sans formation privée. En réalité, le réel format du concours, qui prépare réellement au format des épreuves, c'est des prépas privés qui savent exactement comment sont formatés les mots formatés.
Qui vous formate en fait.
À la fois les écrits, à la fois apprendre des plans par cœur, des choses comme ça aussi. Voilà, c'est des choses malheureusement que la fac n'est pas toujours en mesure de dispenser, il faut quand même le dire, parce que voilà, quand on prépare un concours, on apprend des plans, on apprend des fiches, on apprend de l'actualité, et tout ça, il faut que ce soit de l'information déjà un petit peu digérée, et une très grande majorité, l'immense majorité en réalité des étudiants qui parviennent à obtenir le concours, en tout cas le premier concours, donc celui qui est ouvert aux étudiants, sont passés par ce type de préparation.
Ça n'a pas été votre cas,
vous. Alors, en fait, moi, j'ai fait mieux que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une avalanche de chance dans mes études. C'est que j'ai rencontré un professeur à la faculté de Villetaneuse qui était dans une prépa privée. Ah oui. On a discuté ensemble et je partais de beaucoup trop loin. Moi, j'ai pas eu la chance de faire Sciences Po. Et d'ailleurs, j'ai dit au passage, moi, je stigmatise pas les étudiants Sciences Po. Au contraire, oui. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Je veux dire, ça vous donne une telle ouverture d'esprit que ce serait dommage de s'en priver. Non, c'est que moi, je lui dis, moi je peux pas mettre une somme aussi astronomique, j'ai pas les moyens, et il m'a fait bénéficier des enseignements de la prépa. Je vais être franc avec vous, je partais de tellement loin que si ce prof-là m'avait pas corrigé des dissertations à la pelle, j'aurais peut-être pas acquis la méthodologie. Je savais pas faire une dissertation en fin de 5e année de droit. C'est ça qui aujourd'hui interpelle.
Oui, ça interpelle. Ça veut dire que la fac remplit pas complètement sa mission. Bah,
pas pour les concours en tout cas. Et moi, quand les étudiants de 3e année, de 2e année me disent, certains me contactent aujourd'hui via notamment le compte Twitter ou par mail et me demandent qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre toutes les chances de mon côté dès aujourd'hui. Et je leur dis, la fac de droit, c'est très bien. On vous apprend toutes les matières que vous allez mettre en application. Plus tard, ne regrettez pas votre choix. Par contre, regardez dès maintenant les petits cailloux que vous pouvez commencer à semer dès maintenant. Si vous avez un professeur avec lequel vous entendez bien, chargé de TD, demandez-lui qu'il vous initie à la méthodologie de la disserte. Le plan en 4 temps, Simon tout à l'heure parlait des plans qu'on apprend par cœur ou des intitulés, c'est vraiment le 4 temps de la problématique, ce que je leur dis, la phrase d'accroche, votre intro, elle doit avoir une problématique, le premier temps, le deuxième temps, l'annonce du plan, c'est, en fait, il faut que les étudiants comprennent qu'il faut passer par ces fourches codines-là. Mmh. Et après, sur le concours, parce qu'on a un sentiment parfois que finalement le concours comme ça de l'extérieur, c'est un peu nébuleux. En réalité, on se rend compte, je ne sais pas si Simon est d'accord avec moi, mais moi, le concours, quand je suis arrivé à l'ENM, j'ai compris pourquoi on avait fait ce concours-là. La note de synthèse, par exemple, quand vous devez faire un réquisitoire définitif d'un dossier qui fait 200
tomes. Qu'est-ce que c'est qu'un
Alors, en fin d'information, lorsque vous avez saisi...
D'une instruction.
D'une instruction par un juge d'instruction, donc ouais. Une affaire soit délictuelle ou soit criminelle, qui est la majorité la grande majorité des cas, vous avez des dossiers qui sont parfois très volumineux, qui peuvent faire 50 tomes, 100 tomes ou 10 tomes.
100 tomes.
Et là, vous devez faire, quand vous êtes au parquet, ce qu'on appelle un réquisitoire définitif. Vous devez faire la synthèse des faits, en citant toutes les cotes, et une analyse juridique des faits. J'ai compris, par exemple, l'intérêt de la note de synthèse. Heureusement que j'avais été formé à ça. De la même manière que quand vous rédigez votre réquisitoire ou quand vous rédigez un jugement, il va de soi qu'il faut savoir écrire. Il faut que ce soit intelligible, il faut que ce soit compréhensible par celui qui va le lire. Donc le concours, il est logique. Le seul truc, c'est qu'il faut pas qu'il y en ait un qui parte avec 10 mètres d'avance et un autre à qui on a mis des poids aux deux pieds, quoi.
Ouais, c'est ça. Simon Champigny, vous avez l'impression que toute cette préparation, vous êtes juste des enfants, je le rappelle, donc vous expliquer ce que vous faites, mais ça vous a beaucoup servi, cette formation technique, universitaire, prépa privée, école?
Oh bah la prépa privée, ça sert principalement à avoir le concours. Hein.
Ouais, oui.
C'est pas une période d'épanouissement intellectuel particulièrement, le concours, c'est surtout une période où on engrange. Après, moi, clairement, j'ai eu la chance de faire des études un peu longues, puisque j'ai fait 5 ans en IEP et puis 2 ans après en master, donc j'ai fait vraiment du droit. Oui, bien sûr, les études, c'est génial, ça permet de savoir un peu ce qu'on fait, de comprendre, de mûrir. Et puis moi, si j'avais pas fait des études aussi longues, je pense que j'aurais pas eu cette envie, j'aurais pas eu l'idée de faire le concours. Donc oui, tout ça m'a servi.
Qu'est-ce qui vous a poussé, Simon Champigny? Pourquoi vous avez voulu devenir juge? C'est quand même assez particulier comme métier, non?
C'est particulier, d'autant plus que moi, en tout cas, pendant mes études à Sciences Po, je pense que j'avais aucune idée de ce que c'était un procureur, de ce que c'était le droit civil, de ce qu'étaient des notions comme ça, avant de m'y mettre. Donc c'est vrai qu'on peut se demander quel est le rapport entre les deux. On cherche de se rendre utile aux autres, d'avoir un poste à responsabilité. C'était quelque chose que je cherchais. Moi, par ailleurs, il se trouve que j'ai travaillé avec des enfants pendant mes études, puisque j'étais animateur BAFA, ça m'intéressait. J'ai fait un stage. Je pense que le stage, ça peut un peu tout déclencher, quoi.
Le stage, expliquez-nous, le stage, c'était quoi? Le stage dans une juridiction?
J'ai eu la chance de faire un stage d'un mois avec une juge des enfants à Saint-Omer. C'est assez difficile à trouver un stage. Hein. J'ai quand même bien galéré, mais il y a beaucoup de juges des enfants qui m'auraient répondu négativement. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il voulait bien me prendre en stage. Et c'est là qu'on voit. Enfin, moi, pour moi, le déclic, il est surtout là. En fait, oui, il y a la justice, oui, il y a les mineurs qui m'intéressaient en particulier, mais il y a aussi toute l'ambiance de travail, de savoir comment ça travaille un juge des enfants, quelle autonomie ça a dans l'organisation de ses horaires, dans la gestion de son quotidien, de ses audiences, etc. Et là, j'ai commencé à me dire, ah, il y a un métier, ce métier, il pourrait m'intéresser parce qu'il coche pas mal de cases. Et en plus, je me sens, dans le quotidien, j'avais envie d'avoir ce quotidien-là, quoi. Donc c'est vrai que c'est le stage un peu qui a déclenché
La vocation du juge des enfants.
Ouais.
Mais c'est ça. Youssef Badr, pourquoi devenir magistrat?
Alors moi, j'ai pas eu la chance de faire de stage, parce que j'ai jamais eu de réponse positive à mes demandes, mais j'avais quand même envie de devenir magistrat, parce que il m'arrivait régulièrement d'aller en correctionnel ou aux assises, à Pontoise, où j'ai pourtant envoyé beaucoup de candidatures, mais j'ai jamais eu de réponse. Et j'étais passionné par ce que je voyais. Je trouvais que c'était... je voyais un président d'assises questionné, des accusés, des témoins, et je trouvais que ça avait du sens, et j'en voyais où je me disais, en fait, vous avez un impact sur la trajectoire de vie des gens, et je trouvais ça passionnant, et la pratique, y compris d'ailleurs au parquet, m'a conforté ensuite par la suite dans l'idée que c'est un métier qui avait vraiment du sens.
Alors je reviens sur le plafond de verre, ça me perturbe, le plafond de verre que les jeunes, notamment les jeunes de banlieue, on va dire, pour de zones sensibles, se mettent vis-à-vis de la magistrature, c'est quelque chose qui n'est pas pour eux. Vous avez vaincu cette résistance?
Oui, j'ai vaincu cette résistance, mais parce qu'on m'a aidé à la vaincre, en fait. Parce qu'un professeur m'a dit que c'était dommage, en fait. Avec le potentiel que lui avait repéré, il trouvait que c'était dommage de s'arrêter en si bon chemin. Il me disait, avocature, c'est un très bon métier. Lui-même était avocat et professeur. Mais il me disait, c'est vraiment dommage. Si tu veux avoir un impact, changer des choses et puis ensuite montrer un peu l'exemple aux autres, tu pourrais le décrocher, ce concours. Et le plafond de verre, il s'explique par mille raisons. La première, c'est que quand dans votre entourage, vous n'avez personne qui fait ces fonctions-là, elles ne sont pas faites pour vous.
Ouais,
et ensuite, après, il y a aussi une réalité. Alors, il ne faut pas qu'on bascule sur un autre sujet, mais je vais essayer de faire très court. Mais la question, c'est que le rapport en banlieue, pas pour tous, mais pour une majorité, le rapport à l'autorité, il est parfois conflictuel. Moi, je le vois dans mon entourage. certains n'ont pas compris, d'autres évidemment étaient très contents et très fiers, mais certains n'ont pas compris. Et,
des copains.
Ouais, des copains. Et certains me disent, bah, je comprends pas, de par ton histoire et par l'histoire de ta famille, comment tu peux te retrouver dans un métier d'autorité. Ce qu'ils ne comprennent pas, ce que j'essaie de leur dire, moi, c'est qu'en fait, il faut aussi des gens qui ont un autre regard dans ces fonctions-là pour pouvoir aussi apporter parfois peut-être un peu de nuance, même si beaucoup de mes collègues l'ont et ils le comprennent. Mais il faut aussi qu'il y ait des gens, il faut que la magistrature, comme la haute fonction publique, en fait, ressemble à toutes les couches.
Mais ça, c'est la barrière de l'immigration. C'est de se dire, de là où on vient, c'est encore moins fait pour nous.
Exactement. Oui, oui, bien sûr. C'est pas fait pour nous. C'est pas des métiers qui sont accessibles. Vous savez, je vous donne une anecdote, même si elle est à la fois révélatrice et à la fois pas la révélatrice, mais la première fois, ça me fait sourire parce que j'entends Simon qui parle, qui juge des enfants et qui dit, il a eu un stage. Quand je suis arrivé, comme j'avais pas eu de réponse à mon stage à Pontoise, j'ai voulu faire mon stage découverte à Pontoise, 15 jours, en arrivant à l'ONM. C'était une question de principe. J'arrive à Pontoise avec deux de mes collègues auditrices, c'était un stage génial, 15 jours, et j'arrive devant le bureau de la juge des enfants, qui était notre référente pour le stage, qui visiblement était mal du nez ce jour-là. Elle ouvre son bureau, elle me voit, elle me dit « Monsieur, vous êtes convoqué à quelle heure ?» Et je lui dis « Je suis pas convoqué, madame. » Mais c'était tellement agressif que elle me dit « Alors, vous n'avez rien à faire ici ?» Et donc, du coup, j'ai pas pu en placer une. Et je suis reparti. Mais ça, pour vous dire que elle n'imaginait pas 30 secondes que ce soit moi l'auditeur. Exactement. C'est ça. Je trouve que c'est, même si ça mériterait d'être expliqué, je trouve que ça dit beaucoup de choses.
Ben oui, ça dit beaucoup de choses et pas forcément à l'heure, à l'honneur de la magistrature. Tout le monde a le droit d'être fatigué, mais en l'occurrence.
C'était 8h30 du matin, mais oui, tout le monde a le droit d'être fatigué, bien sûr.
Plus d'élégance dans mes écrits, normal pour un mec de Vitry. Sur ma feuille, le ghetto, je retranscris. Zigzag entre le mal et les délits. Je me débrouillard une fois sorti du lit. Au chômage pourtant jeune et ambitieux, c'est pour nous qu'ils ont créé la NPE. Mais y'a une queue d'un kilomètre pour gagner 3 pépés. Je peux me permettre qu'ils aillent se faire mettre. Alors les bacheliers s'engagent à l'armée. Et pour le petit smicard, y'a de quoi s'alarmer. Les bras quoi m'armer, tout ça y'en a marmé. Un jour les keufs viennent te ramener. Vitrine 9-4 de ma ville, je veux être le prince. Je veux pas te cacher, monsieur le maire est une pince. Des promesses y'a pas à dire, y'en a toujours. Rénover les bâtiments, on attend toujours. Et vos monuments à 100 balles, nous on s'en fout. Soi-disant députés en costard, ils sont fous. Comme tous citoyens, je suis censé aller voter. Histoire de dire que j'existe dans leur communauté. Ouais, c'est impossible, quand je vois des frères menottés. Au déboire à Bénoir, c'est pas une nouveauté. A la suite, je félicite les gros bonnets de l'illicite. Pas d'ingénieur dans mon équipe. On est jeunes et ambitieux. Parfois vicieux, où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
Ambitieux, parfois vicieux, où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de s'interroger sur deux parcours de magistrats, de jeunes magistrats, Simon Champigny, juge des enfants à Verdun, et Youssef Badre qui a choisi nous faire entendre cette air Les Princes de la Ville par le groupe 113. Youssef Badre.
Ouais, puisque cet album est sorti en 99. Quand je pense à mes études de droit, c'est la première chanson qui me vient, c'est le premier son qui me vient parce que c'est ce que j'avais dans mes oreilles quand je suis arrivé à Villetaneuse. Il me rappelle vraiment mes années de droit et parce que j'aime beaucoup le refrain aujourd'hui où on s'interroge beaucoup sur la jeunesse, les étudiants qui sont un peu les laissés pour compte de cette crise. Et c'est ce que je leur dis. En fait, j'aime bien le refrain. On est jeunes et ambitieux. Jeunes, ils le sont, c'est un fait. Et moi, ce que j'essaie de leur dire, c'est d'être ambitieux, même s'il y a une crise sanitaire, même si c'est dur, de vraiment de s'accrocher, d'y croire, parce qu'en fait, la réussite, elle est accessible à tout le monde.
Oui, mais on est jeune et ambitieux. Est-ce que l'ambition pour eux, c'est, dans le rêve des gamins de banlieue, il n'est pas ailleurs, il n'est pas dans une réussite visible.
Peut-être que moi j'ai une face qui fait que seuls les étudiants en droit ou d'autres me contactent, mais j'interviens dans des collèges de banlieue. Je pense à Gennevilliers par exemple en décembre dernier. Quand vous passez 2 heures avec eux, ils sont emballés par le métier. Eux, ils se disent juste que c'est pas fait. Enfin, ils se posent pas la question. Voilà, eux, ils se disent, mais c'est génial comme fonction. J'en ai jamais entendu parler. Et ensuite, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, dans les échanges nombreux que j'ai avec les étudiants, il y en a énormément qui sont attirés par la magistrature.
Énormément.
Qui demandent des conseils, bien sûr. Bien sûr. Et vous savez, après, il y a aussi des chiffres qui ne trompent pas. L'année dernière, on a eu le plus gros chiffre de présentation au concours. Sur les 20 dernières années, il y a eu plus de, sur le premier concours, plus de 3250 candidats. Donc non, il y a énormément, c'est un métier qui attire, la magistrature, qui attire, mais ils savent que c'est un marathon. Et qui a déjà couru un marathon, c'est que on est frais au 10e kilomètre et au 30e, ça commence à devenir difficile, mais qu'il faut aller jusqu'au 42e, quoi.
Simon Champigny, alors est-ce que vous pouvez décrire vos fonctions de juge des enfants? Vous êtes juge du siège, donc, et quelles sont les missions que vous donne la loi?
Alors, j'ai deux types de missions en tant que juge des enfants. Ce que je fais principalement à 80% ici à Verdun, c'est de l'assistance éducative. Donc ça consiste concrètement, on dit, à protéger les enfants en danger. Donc en fait, il s'agit principalement de recevoir les familles quotidiennement, ça c'est mon quotidien, et puis de prendre des décisions de protection pour les enfants, mes deux outils principaux, c'est soit en les éloignant de leur famille, ce qu'on appelle le placement, soit en faisant intervenir un éducateur. Le travail du juge des enfants, bien sûr, c'est pas de s'occuper de la mise en œuvre du placement, mais c'est d'essayer d'objectiver la situation, d'objectiver les éléments de danger, de garantir aussi les droits des parents, et bien sûr de décider. Ça, c'est le cœur du métier, bien sûr, de décider de ce qui est le mieux pour l'enfant. Mais... ça, c'est ce que je fais principalement, donc c'est l'assistance éducative. Et puis, le juge des enfants intervient au pénal, c'est-à-dire concrètement, il juge les mineurs à qui on reproche une infraction. La procédure va beaucoup évoluer dans les mois qui viennent, mais en ce moment, juger, ça veut dire mettre en examen, ouvrir une procédure, et puis décider si le mineur est coupable ou pas. Et puis surtout, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser tous les outils éducatifs, répressifs qui sont mis en place, qui sont prévus par la loi, avant le jugement, pour qu'il y ait un suivi qui puisse être mis en place, et puis après le jugement. Ça, c'est voilà. L'essentiel du travail du juge des enfants, c'est tout ça.
Simon Champigny, quand vous avez débarqué, passez mal l'expression, venant de l'IEP de Bordeaux, votre trajectoire, vous connaissez beaucoup de droit pénal, longues études, vous débarquez à Verdun dans une région qui est pas des plus favorisées en France, et il faut vous êtes confronté à des problèmes sociaux. Vous vous sentiez équipé pour préparer pour vous affronter à comme ça à telles difficultés sociales?
Il faut bien commencer. Alors, je sais pas qui est vraiment équipé pour ça. C'est vrai que c'est beaucoup de c'est compliqué, c'est beaucoup de souffrance. On emporte ça aussi le soir avec soi, les dossiers dont on a eu à connaître, les décisions, on se demande si c'était la bonne. Oui, c'est vrai, c'est... voilà. Après, moi, je ne suis pas sur le terrain, donc je ne suis pas à ce point-là au contact des enfants non plus. Hein. Ce qui m'a surtout surpris, c'est d'avoir aussi beaucoup de travail, beaucoup d'enfants, peut-être 500, 600 enfants qu'on suit, donc on finit par connaître aussi des familles. C'est ça qui me marque, c'est qu'il y a surtout la charge du travail, quoi.
Beaucoup de travail.
Ouais.
Ouais. Youssef Bad, alors vous, le parquet, trajectoire complètement différente.
Trajectoire complètement différente. Quand je suis rentré à l'école, j'avais dit, moi, le parquet, jamais. Et puis finalement, je suis allé au parquet. parce qu'en fait, en sortie d'école, comme vous en sortez issu du premier concours assez jeune, je trouvais que c'était le stage m'avait conforté dans l'idée que c'était un lieu de collégialité assez exceptionnel, un lieu où vous aviez une émulation et vous pouviez discuter avec vos collègues. Donc j'ai pris finalement, je suis allé au parquet. Le parquet, pour caricaturer, pour résumer vraiment ses fonctions, c'est vous avez différentes attributions. Soit vous êtes à la permanence téléphonique, donc vous avez un casque sur la tête, et vous vérifiez et vous orientez toutes les gardes à vue et les enquêtes préliminaires qui sont sur votre sort, exactement, de la police. Donc vous dirigez les enquêtes avec la police. Ensuite, c'est celui qui à l'audience, soit correctionnel soit criminel, se lève pour requérir au nom de la société. Donc c'est celui qui rappelle un certain nombre de choses, et c'est vrai que parfois on a l'impression, quand on veut faire un petit peu dans la caricature, que le parquet ou le procureur de la République a peut-être le mauvais rôle, ou en tout cas le rôle du méchant.
Oui, rôle un peu ingrat quand même, non?
Rôle un peu ingrat, moi j'ai pas le sentiment d'avoir vécu un rôle un peu ingrat. Moi j'ai trouvé, comme la parole est libre à l'audience, que c'était un endroit où vous aviez un formidable espace de liberté, où vous pouviez faire passer beaucoup de messages, et vous pouviez dire beaucoup de choses à partir du moment où vous requériez ce avec quoi vous étiez en adéquation intellectuellement.
C'est-à-dire requérir juste.
Exactement, requérir juste. Moi, un de mes maîtres de stage me disait, requiert toujours la peine que tu prononceras. Et si tu requiers la peine que tu prononceras, tu seras en mesure de l'expliquer oralement.
Et tu seras suivi.
Exactement, et tu seras suivi. Alors après, on l'est pas suivi, c'est jamais un drame. Ouais. Comme disait Pierre Truche, si on n'est pas suivi, c'est qu'on n'a pas réussi à convaincre. Ouais. Voilà, mais c'est ça. Et ensuite, le procureur, ce qui est intéressant dans le métier de procureur, c'est qu'il y a énormément de partenariats aussi. Avec, par exemple, le maire, vous participez à beaucoup de réunions. Vous pouvez également aller voir, présider ou vous rendre dans des associations. Je pense notamment qui lutte contre la sécurité routière. Quand vous êtes aux mineurs, il y a aussi beaucoup de partenariats avec les établissements scolaires. Vous pouvez intervenir également dans ces milieux-là, et je trouve qu'on le caricature parfois, alors qu'en fait il y a une vraie diversité dans les fonctions de parquetier. Moi, j'ai énormément adoré. Et puis Simon parlait tout à l'heure du terrain. Là, pour le coup, c'est une fonction dans laquelle vous allez sur le terrain à Bobigny, qui reste mes plus belles années de fonction aujourd'hui.
Alors Bobigny, c'est assez dur, parce que moi encore, il y a une partie, mais au Bobigny, c'est vraiment le coin de la région parisienne où c'est le plus chaud, comme on
voilà,
dit.
Voilà, Bobigny, j'ai passé des années exceptionnelles, et j'ai eu la chance après une année de rejoindre la section criminelle. Quand vous êtes d'astreinte du lundi matin au vendredi matin, et donc du coup la nuit ou la journée, quand il y a une scène de crime, vous vous déplacez, vous saisissez les services enquêteurs, et donc du coup vous assistez aux constatations, et ensuite vous diligentez les premiers actes d'enquête. Ça oui, c'est des choses qui m'ont marqué aujourd'hui au cœur.
Ça marque, mais ça va être aussi en même temps un peu impressionnant. Même question que pour Simon Champigny, quand on débarque même de Villetaneuse, des études de droit, c'est un peu choquant quand même ce qu'on voit, non?
C'est choquant parce que personne n'est confronté à la mort avant de... Enfin, personne n'est habitué à être confronté à la mort. La mort, vous êtes confronté quand vous arrivez en scolarité à l'ENM, quand vous assistez à une autopsie ou en stage, ou quand vous prenez vos fonctions. Là, vous comprenez ce que c'est qu'un accident de la route, un homicide involontaire, un homicide volontaire, ou lorsque vous voyez une victime de viol lors d'un procès d'assises. Là, vous comprenez exactement ce que ça représente, parce que vous mettez des vies humaines là-dessus, quoi. Donc oui, bien sûr, c'est choquant, et vous l'emportez avec vous, et ça impacte. Ça, c'est une évidence. Ça impacte votre vie quotidienne. Le rapport que vous avez avec vos enfants, le rapport que vous avez à la vie, le rapport que vous avez avec votre famille. Voilà, quand vous êtes confronté à la mort, vous savez qu'en fait c'est quelque chose qui peut frapper du jour au lendemain, en fait. Et vous savez, au parquet, on parle beaucoup des enquêtes criminelles, on parle peu d'une prérogative qui est pourtant très importante parce qu'elle est quotidienne, c'est les enquêtes d'essai.
Ah oui.
Les enquêtes d'essai, en fait, quand vous êtes d'astreinte au parquet, vous êtes appelé. Il n'y a pas une journée où vous n'êtes pas appelé. À partir du moment où il y a un obstacle médico-légal, donc une personne qui a perdu la vie chez elle pour x ou y raison, la question c'est est-ce que vous faites un examen externe, une autopsie. C'est des choses en fait...
Et vous y allez à chaque fois?
Non, on n'y va pas. On les supervise. Vous y allez quand il y a vraiment une suspicion, vous pouvez envoyer des policiers. Là où vous y allez, là où on y allait nous, c'est quand il y a une enquête criminelle, parce que c'est une mine d'informations importante.
Et Simon Champigny, cette confrontation à la souffrance sociale en ce qui vous concerne, c'est moins la mort que la détresse sociale.
Oui, bah c'est le quotidien. Alors c'est vrai qu'on zappe un peu parce qu'il y a énormément de situations différentes, mais c'est vrai que voilà, moi mon critère principal c'est le danger. En tout cas en assistance éducative, donc c'est de voir des enfants en danger. Et aujourd'hui, en 2021, il y a toujours mille et une manières d'être en danger dans sa famille. Donc c'est une confrontation quotidienne, oui.
C'est ça. Et par exemple, on parle beaucoup des questions d'inceste aujourd'hui, de violences sexuelles. Là aussi, ça a été une découverte pour vous, Simon Champigny ?
Oui, certainement. Enfin, comme beaucoup d'autres sujets, voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'inceste en ce moment. L'inceste, le juge des enfants, on en connaît de situations incestueuses, parce que ça fait éclater la cellule familiale, parce qu'on se demande ce que les enfants vont devenir une fois qu'il y a beaucoup de parents qui demandent en fait à leurs enfants de choisir entre les révélations qu'ils ont faites et le fait d'être dans la famille. Donc les enfants qui évidemment changent d'avis, se disent que peut-être la vérité n'a pas ce prix-là. Et ça, oui, ça c'est un sujet qui revient souvent, mais comme d'autres, hein, voilà, dans la Meuse, moi où je suis actuellement, j'ai compris qu'il y avait une problématique autour de l'héroïne, beaucoup de dangers en lien avec la toxicomanie, voilà, il y a le handicap, en tout cas tout un tas de difficultés auxquelles peuvent être confrontés les enfants.
Et vous croyez...
C'est nouveau pour moi, bien sûr.
Oui, c'est ça. Mais vous croyez, par exemple, prenons l'exemple de l'héroïne, c'est vider la mer avec une petite cuillère quand même, non? Se battre contre le trafic de drogue.
Alors moi je me bats pas contre le trafic de drogue.
Oui, c'est ça, après, vous faites partie de cette...
Voilà, bah on essaie de traiter un petit peu les conséquences. Une maman toxicomane, ça veut pas dire qu'elle peut pas être maman, mais il faut que elle a le droit d'avoir des liens avec son enfant. Est-ce qu'elle peut quand même l'élever? Oui, non. Voilà, tous les cas sont différents. En réalité, c'est vrai que tous ces sujets de société là, dont on entend parler, nous en tant que magistrats, on a l'occasion d'en connaître pour une situation particulière. Donc, c'est difficile de dire quelles sont les conséquences de l'inceste, quelles sont les conséquences de la drogue, etc. Voilà, c'est ça qui est très intéressant dans ce travail, d'ailleurs, c'est qu'on peut rarement appliquer directement une grille de lecture, les violences conjugales, les choses comme ça. On voit que les situations sont compliquées, qu'il y a de la souffrance, mais en fait, il n'y a jamais une vraie bonne solution. Les enfants, ils ont à la fois besoin de leur famille et à la fois besoin de ne pas souffrir en famille. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a un juge, à mon avis, dans certaines situations.
Oui, c'est très important ce que vous dites, quoi. Personnellement, je le comprends d'autant plus que j'ai vécu moi-même. C'est-à-dire, on ne voit que des situations individuelles, dans le fond. On est juge pour appliquer la loi, on a des critères de politique judiciaire, et pourtant, on ne voit que des gens singuliers devant soi, Simon Champigny.
Oui, tout à fait. Et en plus, on est aidé dans notre travail par des travailleurs sociaux. Moi, je suis très admiratif du travail de mes partenaires. Il y a des éducateurs, il y a des psychologues, il y a tout un tas de professionnels qui sont spécialisés dans ce qu'ils font, en fonction des tranches d'âge, en fonction des problématiques. Et voilà, le juge des enfants, il n'est pas tout seul non plus. Il bénéficie tout le temps de l'éclairage des professionnels par ailleurs. Et voilà, donc en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant.
Youssef Badre, vous, après, vous avez commencé par la petite délinquance, par Meaux, Bobigny, c'est déjà plus sérieux. Et après, vous étiez procureur à ce qu'on appelle la GIRS. Vous pouvez nous présenter la GIRS ou ce que c'est que...
Alors, la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, en l'occurrence. Alors, il y a d'autres GIRS. Elle a une compétence interrégionale. Donc, en fait, quand vous êtes à Paris, à partir du moment où vous rentrez dans les critères pour vous saisir d'un dossier qui relève de la grande criminalité organisée au sens du code de procédure pénale, donc vous êtes compétent, que le dossier, par exemple, se passe à Évry, à Bobigny, à Auxerre, ou même jusqu'à Dreux d'ailleurs, et vous êtes référent sur ces contentieux-là. Donc là, effectivement, là, vous franchissez, j'allais dire, un autre cap, une autre dimension, quoi. C'est-à-dire que là, vous vous intéressez, vous travaillez sur ce qui est les trafics d'armes, les réseaux de proxénétisme, le trafic de stupéfiants au niveau international, beaucoup, exactement, avec, effectivement, là, Simon parlait tout à l'heure de trafic d'héroïne, là, ça se chiffre en termes de trafic de cocaïne ou d'ailleurs de résine ou d'herbes de cannabis, là ça se chiffre en millions, ça dépasse les millions, là vous êtes complètement sur une autre planète, donc avec des services enquêteurs spécialisés et des moyens effectivement un peu plus importants.
Et là vous avez l'impression, pour vous rappeler les propos de votre professeur, que vous pouvez changer les choses quand vous êtes à ce niveau-là?
Vous pouvez changer les choses, ça dépend. On revient sur ce que disait Simon et ce que vous disiez, c'est-à-dire que chaque affaire est singulière. Oui, vous pouvez changer les choses. Dans un réseau de trafic de drogue, il y en a plusieurs que vous pourrez sortir de là, bien sûr. Ça dépend un peu de leur investissement, de leur degré, des personnes qui sont autour d'elles et de leur volonté. De la même manière, dans un réseau de proxénétisme, vous pouvez sortir des victimes ou des femmes qui sont prostituées. Si vous avez les bons outils, vous pouvez les sortir de là.
Ça vous est arrivé, vous avez des exemples en tête.
Oui, vous avez des exemples en tête. C'est pas la grande majorité. L'exemple, surtout les exemples en tête qu'on a là-dessus, c'est l'arrestation des protagonistes, la poursuite, la mise en examen et le jugement, exactement, le démantèlement. Malheureusement, aujourd'hui, la délinquance, ou en tout cas l'activité criminelle, a rendu vide. C'est-à-dire qu'un réseau de trafic de drogue, si vous démantelez un réseau sur un endroit, il est fort probable la matinée que le lendemain, une autre équipe ou quelqu'un d'autre a pris la place. Ça, c'est aussi une réalité. Alors oui, après, ça dépend de la façon dont vous... ça dépend du regard que vous portez sur votre affaire. Il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est qui vous pouvez sortir de ce réseau-là. On pourrait d'ailleurs se poser la question, d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment l'office du juge? Et la deuxième, c'est qu'est-ce que vous pouvez récupérer, qu'est-ce que vous pouvez confisquer en termes de saisie, d'avoir criminel.
Et ça, cette dimension-là qui est très importante.
Ça, elle est très importante. Un trafiquant de drogue en prolongation de garde à vue, une fois à Bobigny, m'avait dit, avec ce que j'ai mis de côté, il m'avait dit déjà d'une part en arguant, si vous arrivez à le trouver, vous êtes très fort. L'air de dire, voilà, j'avais investi à l'étranger. Et il m'avait dit, même si je prends une peine à deux chiffres, avec ce que j'ai mis de côté, je la ferai sans problème. Ma famille est à l'abri. Donc ça veut bien dire
c'est pas décourageant, quelque chose comme ça.
Non, c'est pas décourageant, non. Ça vous force, vous et les enquêteurs, à chercher, surtout lorsque vous saisissez un juge d'instruction. C'est pas décourageant, non, parce que sinon, à ce moment-là, on mettrait les clés sous la porte et puis on dirait, écoutez, on laisse tomber et puis on encouragerait les choses. Non, parce que quand vous condamnez quelqu'un, il y a quand même la peine qu'il faut supporter et qu'il faut subir. Après, on essaie de voir où est-ce qu'on doit travailler, ce qu'on peut améliorer et tout ça. Mais ça veut quand même dire que la question de la confiscation des avoirs criminels est une chose importante, est un élément important.
« mucho de pelo en mi pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida.
France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapo.
Esprit de Justice qui continue avec nos deux jeunes magistrats sur leur parcours professionnel qui au parquet pour Youssef Badr ou pour au tribunal des enfants pour Simon Champigny. Simon Champigny, donc ça fait quelques, vous venez de commencer quoi, ça fait 3 ans que vous êtes, vous avez commencé à Verdun. Au bout de 3 ans en rapport d'étape, il y a des points qui vous ont déçu, des points qui vous ont surpris?
Rapport d'étape, je fais un boulot passionnant. C'est vrai que je suis assez content de ce travail. C'est vrai que ça valait le coup. Je suis assez content. Des difficultés, c'est vrai. Bon, c'est une banalité, mais il faut quand même dire que la justice évolue avec des moyens pas très élevés. Et c'est d'ailleurs aussi le cas de tout le système de protection de l'enfance. Hein. Il y a un turnover important du personnel éducatif. Il manque des places de placement. Et voilà. Et dans les tribunaux, il manque des greffiers, il manque des traducteurs, il manque des salles d'audience parfois. Donc c'est vrai qu'on travaille avec ce manque de moyens, et qu'à un moment, la charge de travail qu'on a, elle oblige à faire des choix. C'est-à-dire qu'on travaille pas de la même manière. Quand on a beaucoup de travail, forcément, on apprend vite à trouver les priorités, à savoir ce qu'on doit faire, parfois être à la frontière de la légalité aussi, clairement. Hein, le juge des enfants, on peut pas tout le temps respecter toutes les formalités qui sont prévues parce qu'il n'en a pas le temps de faire toutes les audiences ou toute la motivation qu'il souhaiterait. C'est vrai que ça, c'est quand même un bilan que je fais. C'est que c'est difficile d'arriver à limiter, on va dire, le don de soi, parce qu'on a envie de donner beaucoup aux fonctions et en même temps on a envie d'avoir une vie personnelle. Je préfère ne pas cacher quand même la situation à des personnes qui souhaiteraient faire ce travail aussi. On a un travail où il faut savoir trouver la bonne dose entre le travail et le personnel.
Quoi. C'est ça, parce que c'est une fonction très très prenante d'être juge des enfants. Il y a un investissement qui est un investissement très grand, et ça prend une part importante de la vie tout court. Simon Champigny.
Oui, c'est clair. Au-delà du fait que on soit aussi dans la solitude du juge et que parfois on revient, on met les décisions délibérées, c'est-à-dire on se laisse du temps pour réfléchir à la décision qu'on va prendre. Le doute, le besoin de mettre aussi à distance un peu les situations. Au-delà de ça, c'est vrai qu'il faut arriver à gérer son temps, à se trouver du temps pour soi. Moi, j'ajoute que pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres collègues, il y a l'éloignement géographique. Pour cause, moi, je voulais être juge des enfants. Ça supposait, en premier poste, de partir dans une région que je ne connaissais pas. J'y avais pas d'attache, en tout cas quand j'y suis arrivé il y a 3 ans. C'est aussi le principe aussi de la République. On va rendre la justice là où il y en a besoin. Ça fait partie du travail de savoir qu'on va bouger plusieurs fois dans sa carrière et qu'on pourra, en tout cas, dans un premier poste, arriver dans un endroit où on ne serait pas allé spontanément. Donc, ça fait partie du don de soi, je dirais.
Oui, c'est ça. Youssef Badr.
Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Simon. Alors, effectivement, la question des moyens, c'est une question qu'on retrouve dans l'intégralité, je pense, de la fonction publique. Après, faut pas. Moi, j'oublie pas que la fonction est une richesse incroyable. Enfin, je veux dire, c'est pour des étudiants en droit. vous avez la possibilité ensuite d'être juge des enfants à Verdun, juge d'application des peines à Paris, juge d'instruction à Marseille, vice-procureur à Papeete. Je veux dire, quelle est la fonction qui vous permettrait d'avoir une telle diversité sur des fonctions? En plus, je veux dire, c'est même pas le même métier ailleurs. C'est un métier complètement différent ailleurs. Et moi, je vois la place qu'est la mienne aujourd'hui. Par un concours de circonstances, je me retrouve aujourd'hui en détachement à faire de la formation avant de retourner ensuite au tribunal. Je veux dire, c'est d'une richesse intellectuelle et professionnelle assez hors du commun. C'est vrai qu'on a, mais ça date pas d'aujourd'hui, c'est tellement ancien. On a des problématiques de moyens, ce que dit Simon, je le retrouve au parquet. Au parquet, où oui, parfois, il y a des procédures, effectivement, qu'on voit très vite. J'avais des collègues aussi qui montent parfois à l'audience au parquet en ayant vu juste le rapport de synthèse. Ça fait partie, mais parce qu'en fait, c'est pas qu'ils veulent le faire. C'est qu'en fait, parfois, la réalité fait que vous n'avez pas le temps de travailler différemment. Depuis quelques années, on nous promet des augmentations qu'on constate. Faudrait juste les maintenir sur les 20, 30 ou 40 prochaines années pour qu'un jour on puisse retrouver effectivement le niveau peut-être allemand, notamment du rapport du nombre de magistrats au nombre d'habitants. Après, sur la diversité, moi, je peux qu'encourager des étudiants. Je disais il y a 10 ans, 12 ans que c'est le plus beau métier du monde. Je le pense vraiment.
Et alors, il se trouve que vous avez été choisi par Nicole Belloubet, l'ancienne garde des Sceaux, pour être son porte-parole. Tout à fait inattendu, là aussi, une autre surprise de la carrière, Youssef Badr.
Oui, oui, une autre surprise à la carrière. Je savais même pas que ce poste existait. Effectivement, j'ai passé 2 années aux côtés de cette grande dame que j'aime vraiment beaucoup, humainement, qui est juste incroyable. Et professionnellement, j'ai énormément appris. C'est pareil, ça fait partie, voilà, de la diversité des fonctions. À un moment donné, le cabinet a décidé que pour expliquer l'action du ministère de la Justice, alors, peut adhérer, pas adhérer, moyennement adhérer, c'est pas le sujet. La question, c'était est-ce qu'il faut le donner à un magistrat ou pas. Il a été décidé de le donner à un magistrat, donc notamment pour pouvoir apporter des éclairages techniques, juridiques. J'ai adoré la fonction pendant 2 ans, j'ai vraiment adoré la fonction. Ouais.
Simon Champigny, alors voilà, 3 ans à Verdun, vous expliquez que c'est ça la vie de magistrat, c'est aussi circuler, voyager, ce qui est très bien, c'est une forme de don de soi. Et après, comment vous voyez la suite en ce qui vous concerne, Simon Champigny, votre carrière?
Alors, c'est vrai que on a la possibilité d'avoir tout un tas de projets, hein, comme disait Youssef. D'un côté, moi, quand je suis arrivé dans ces études-là, j'avais envie de me spécialiser parce que j'avais eu l'impression d'avoir des études assez générales. Là, je suis assez content d'être un peu spécialiste de ma fonction. Et en même temps, on peut changer. C'est vrai qu'on peut changer. En gros, tous les 3 ans, si on demande à bouger, c'est possible. Écoutez, moi, j'aimerais bien travailler dans d'autres contextes, peut-être.
Toujours aux enfants. Toujours juge des enfants.
Juge des enfants, pourquoi pas. Le parquet, pourquoi pas. Ça m'intéresserait d'avoir une fonction au parquet. C'est vrai qu'on peut changer complètement de boulot, pas seulement en changeant de fonction, aussi en changeant de contexte, quoi. Hein. Si on travaille dans un contexte urbain, comme a été celui où Youssef Badr a travaillé, ça n'a rien à voir avec moi le travail que je mène dans un environnement particulièrement rural où il y a des problématiques autres. Donc oui, on peut changer beaucoup. Moi, écoutez, je me verrais bien aller au parquet, pourquoi pas. D'autres fonctions spécialisées, pourquoi pas l'application des peines. Ou juste des enfants dans une plus grande ville.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est que pour vous, passer du siège au parquet, c'est-à-dire pour nos auditeurs, passer de celui qui juge à celui qui poursuit, ça ne vous pose pas de problème. Vous trouvez que c'est un seul métier, c'est le métier de magistrat.
Alors, moi, je ne vais pas trancher le débat de savoir si l'unité du corps entre les magistrats du siège et les procureurs, elle est souhaitable ou pas. Clairement, la question se pose parce que c'est quand même pas le même travail. Moi, je vois ça surtout comme une opportunité professionnelle. Hein. Peut-être que si on avait une école commune avec les avocats, peut-être que j'aurais envie de devenir avocat. Bon, c'est pas comme ça que ça se présente. C'est vrai que c'est possible aujourd'hui d'être juge pendant plusieurs années, de devenir procureur. J'ai envie de dire tant mieux pour l'appétit. En tout cas, pour satisfaire ma curiosité, mon envie de changer aussi. En tout cas, je prédis que j'aurais peut-être envie de faire d'autres choses dans les années qui suivent. Donc moi, je le vois surtout comme ça. C'est une opportunité.
Youssef Badr.
Moi, je trouve que c'est pas incompatible. Au contraire, moi, je trouve que c'est toujours intéressant de voir, lorsqu'on a été au siège, de regarder comment fonctionne le parquet. Ça permet aussi de mieux comprendre la machine et la chaîne pénale. Et inversement, je crois que des bons juges du siège ou même des très bons juges du siège, quand on regarde leur parcours, parfois comprennent bien le fonctionnement du parquet. Et inversement. Alors moi, pour le coup, je suis pas du tout. Je pense que l'école commune, à mon avis, elle a du sens. Et on est tellement bien formé, faut reconnaître la formation initiale. Enfin, je veux dire, quand on regarde,
oui,
je connais sur lesquels on passe.
Oui.
Bien sûr, vous avez quand même 8 mois de scolarité dans lequel vous avez quand même énormément.
Est-ce que vous pouvez dire un peu aux auditeurs comment ça se passe la formation à l'école?
Ah bah la formation à l'école. Alors pour la faire très rapidement, vous arrivez. Moi j'ai eu le sentiment, enfin c'est pas que j'ai eu le sentiment. Je suis sorti de l'école, j'étais prêt. Je sais pas quel est le sentiment de Simon, mais j'étais prêt. J'avais envie 6 mois avant d'y aller quoi. On a eu 8 mois de formation théorique à Bordeaux. Là on a fait on a eu beaucoup d'intervenants, beaucoup de formations. On a revu beaucoup de matières juridiques qu'on avait vues à la fac, mais d'une manière différente. Un peu plus poussé, puis les ateliers en direction d'études fait qu'on les appliquait en pratique. On travaillait beaucoup avec des mises en situation et on était évalués en permanence. D'ailleurs, les auditeurs sont évalués en permanence.
Tout le temps.
Ouais. Tout le temps. Ensuite, on est parti là sur le gros du morceau de la scolarité, sur le stage. Le stage, vous passez par toutes les fonctions, plusieurs semaines, et vous êtes évalué. Vous passez par le parquet, vous faites des actes à l'instruction, toujours avec des maîtres de stage différents. Ensuite, ils se réunissent entre eux. Voilà, il est bon là-dedans, là-dessus, il faut qu'il travaille un peu plus. Et vous avez des possibilités aussi d'avoir des incompatibilités. Ça existe. C'est-à-dire que, oui, par exemple, c'est-à-dire que certaines fonctions, le maître de stage peut vous dire, écoutez, moi, je pense qu'il est pas prêt pour être juge correctionnel. Il faut qu'il prenne un peu plus, il faut qu'il gagne un peu plus en assurance. Parfois, ça peut d'ailleurs même aller jusqu'au redoublement, hein, pour refaire une année, pour refaire une période où se spécialiser là-dedans. Donc, vous passez par tous les stages, vous êtes évalué. À l'issue, vous revenez à l'école, vous avez un examen de sortie, et ensuite, pendant les 6 derniers mois, la fonction que vous avez choisie, vous vous spécialisez, vous ne faites que ça. Le seul bémol, c'est que vous ne pouvez pas vous spécialiser dans la fonction dans laquelle vous allez prendre vos fonctions. Franchement, honnêtement,
dans la juridiction, c'est ça.
Dans laquelle vous allez sortir, ça, exactement. Ouais, franchement, moi, après 3 mois de fonction, j'avais tellement fait de parquet, tellement d'audience et tout ça, que j'avais qu'une envie, c'était de prendre mes fonctions. Moi, je me sentais prêt et j'étais prêt. Donc, la scolarité, elle est longue. Et puis, vous êtes évalué en permanence. Et je rebondis juste et je referme la parenthèse là-dessus. Mon stage juge des enfants s'est très bien passé. Pour autant, je suis incapable de prendre cette fonction.
Pourquoi?
Parce que je trouve que la fonction est écrasante. Moi, je me dis, j'aimerais un jour l'exercer, mais je me laisse encore le temps de grandir. Et je trouve que gérer, comme le dit Simon, hein, moi, j'ai beaucoup d'estime pour les collègues qui ont 500, 600 situations. Je sais pas, moi, le jeune père de famille que je suis me dit que j'ai déjà du mal avec mes 2 enfants. Si c'est pour aller donner, m'immiscer dans les autres familles et dire il aurait fallu. Moi, j'ai énormément d'estime. Et après, il y a les barrières. Ça pour vous dire qu'il y a les barrières aussi que chacun on se met en tant qu'adulte responsable. Moi, je juge des enfants aujourd'hui, c'est inconcevable pour moi.
Et Simon Champigny, devenir parquetier, vous, c'est concevable de. Vous allez aussi de temps en temps en cour d'assises aussi, Simon Champigny.
Ah bah, j'ai eu cette chance, oui, puisque voilà, je suis dans un petit tribunal, donc on est un petit peu touche à tout, et voilà, ça m'arrive d'aller en comparution immédiate et à la cour d'assises l'année dernière, j'ai eu cette chance, donc. Voilà, c'est une des choses qu'on fait. Et devenir parquetier, devenir membre du parquet, ça m'intéresserait. Et je suis d'accord avec Youssef. Je pense qu'on devient un meilleur juge en ayant été parquetier et vice versa. Et la profession gagnerait à avoir davantage de regards croisés comme ça, de se former en voyant les autres travailler, en échangeant. On n'a pas beaucoup cette culture, je trouve, en tout cas dans mon travail de juge des enfants. Bah, moi, comme je suis un juge unique, je travaille tout seul. J'ai pas de parquetier qui vient à l'audience. J'ai pas forcément de recul sur ma fonction. C'est vrai qu'en changeant de fonction, on apprend à être un meilleur magistrat. C'est clair. C'est mon avis.
Oui. Simon Champigny, faudrait pour donner envie à nos jeunes auditeurs de rejoindre la magistrature, vous leur diriez quoi là, rapidement, en quelques mots?
Un peu des raisons de rejoindre le
corps.
Bon, déjà, c'est un vrai poste à responsabilité dans lequel on se sent rapidement utile, on est rapidement aux manettes, on peut rapidement changer les choses, à mon avis. Moi, j'ai l'impression que c'est des fonctions dans lesquelles on ne s'ennuie pas. Hein, on a toujours plein de partenaires, plein de situations, plein de contextes de travail différents. Moi, je me lève tous les matins en me disant, sous ma douche, je prépare ma journée dans ma tête et je sais que tous les jours, c'est différent. Je vais recevoir des familles différentes ou juger dans des contextes différents. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce que j'ai envie de souligner, c'est toutes les opportunités qu'il y a. On a quand même cette diversité. Alors, il y a la question du changement siège au parquet. Pour rester sur le siège, il y a beaucoup de fonctions au siège qui m'intéresseraient. Il y a beaucoup d'endroits où j'aimerais bien être magistrat. Et donc, je me dis que c'est un boulot où, quand on commence à, peut-être, je sais pas si ça arrive, c'est pas mon cas encore, mais quand on commence à en avoir un petit peu assez, ou de sentir qu'on a fait un peu le tour de la fonction, eh ben, on change de fonction, sans changer de métier. Voilà.
Youssef Badre, vous fréquentez beaucoup de jeunes, vous, hein, vous avez, cette chance, ou ils ont cette chance de vous rencontrer, qu'est-ce que vous leur dites?
Moi, je leur dirais, alors il y a des tas de raisons, je leur dirais un peu comme Simon, je pense que c'est une fonction de responsabilité et je pense qu'il n'y a pas de gros mots dans le fait de le dire. Moi, on m'a toujours dit, ouais, faut être trop ambitieux. Bah non, en fait, je pense qu'on peut devenir magistrat, faut y aller si la fonction vous intéresse. La première, c'est que c'est effectivement un poste à responsabilité dans lequel vous décidez très vite, très rapidement. Donc, on va vous ouvrir, on va vous donner les clés d'un cabinet en vous disant, oui, d'un cabinet, d'ailleurs, au parquet comme au siège, en vous disant, voilà, ça c'est ton cabinet, ton contentieux, à toi d'y aller.
Et puis, dans lequel il y a la liberté des gens, il y a leur réputation, leur fortune, leur honneur.
Exactement.
C'est pas rien.
Exactement. Bah, aux étudiants en droit, je leur dirais, venez mettre en pratique ce que vous avez appris pendant 4-5 ans. Là, on vous propose de mettre en pratique, de faire vivre les textes de droit qu'on vous a appris depuis la première année. Donc, venez l'exercer. C'est un métier qui a du sens, clairement. Vous pouvez, moi, quand je vous dis, vous pouvez changer les trajectoires de vie, vous changer des trajectoires de vie, dans le bon comme dans le mauvais. Et ensuite, je leur dirais, parce que je sais pas si c'est si fréquent que ça, ça mériterait d'y réfléchir, c'est un métier qui vous fera grandir. C'est un métier qui vous fera grandir, vous allez parler personnellement, qui vous fera apprendre à 4000 à l'heure. Vous parlez tout à l'heure de la cour d'assises, il n'y a pas un procès d'assises où j'étais au parquet, où j'en suis pas ressorti transformé, où je me suis pas dit j'en ai pris plein la tête, mais j'ai une vision différente des choses, j'ai appris beaucoup de choses et c'est un métier qui vous fera grandir. Et ensuite,
vous avez porté des affaires aux assises.
Exactement, comme parquetier, oui, comme parquetier à Melun, puisque les assises étaient à Maule, les assises étaient à Melun et à Bobigny, exactement. C'est un métier qui vous fera grandir et voilà ce que je leur dirais. Donc il y a mille raisons de rejoindre la magistrature. Et ne vous arrêtez pas, ce que je leur dirais aujourd'hui, ne vous arrêtez pas aux critiques que vous pouvez lire ou entendre ci et là dans la presse, parce que c'est souvent des raccourcis en fait. Vraiment, c'est souvent des raccourcis. Le métier de magistrat, c'est un beau métier et qui mérite d'être exercé par des gens qui en ont l'envie. Donc je leur dirais, allez-y.
Simon Champigny, vous avez l'impression d'avoir été grandi, que vous êtes grandi par les fonctions que vous exercez ?
Bien sûr, oui. Bah, on en apprend tous les jours. C'est vraiment un métier de formation permanente. Donc, oui, je me sens grandi parce que je fais. Je suis pas le même que quand je suis arrivé avec Verdun, c'est clair. J'aime bien ce que vient de dire Youssef. Je voudrais dire aussi aux étudiants d'aller à l'audience quand c'est possible. Là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas vraiment possible avec le Covid. Mais en réalité, les audiences, notamment pénales, elles sont publiques. C'est l'occasion de découvrir comment on fonctionne, comment on analyse la personnalité de quelqu'un, les faits qu'il a commis ou qu'il a pas commis, comment on plaide, comment on requiert. Je pense que c'est assez important de dire aux étudiants qui n'auraient pas la possibilité de faire un stage. C'est vrai que c'est compliqué d'en trouver un. Aller à l'audience.
Oui. Ben ça a été. On arrive là, par là où on a commencé, ou c'est bien comme ça que ça a commencé pour vous.
Exactement. En correctionnel et aux assises de Pontoise, exactement, où je me disais, je me verrais bien à leur place un jour.
Et voilà, c'est arrivé. Esprit de justice, aujourd'hui avec Youssef Badre et Simon Champigny, Jacques Hubert à la technique, Jeanne Delecroix, Sandrine Chaperon, Léa Camelone-Fosso et Esther Balancic, Antoine Garapon.